Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. Chaque semaine, Cinérama, c'est 30 minutes pour parler de cinéma. Et nous avons un copieux sommaire avec des interviews et puis des chroniques. De quoi tu veux nous parler, Marine?
Eh bien, moi, je vais vous parler de deux films français, Un métier sérieux, le nouveau film de Thomas Lilti, et Comme une louve, c'est un premier film.
Quant à toi, Guillaume, c'est un seul film.
Oui, moi, je vous amène à Venise, une Venise mystérieuse, puisque c'est Mystère à Venise de Kenneth Branagh.
Moi, j'aurai l'occasion de vous parler de Acide, film avec Guillaume Canet, thriller apocalyptique. Et puis, nous parlerons aussi des Feuilles mortes, film d'Aki Korismäki, qui a remporté un prix au dernier Festival de Cannes. Et ce sera l'occasion d'écouter le réalisateur finlandais. Mais nous commençons avec Un métier sérieux. Habitué à nous emmener dans un univers médical, Thomas Lilti nous emmène cette fois-ci dans un établissement scolaire avec un sacré casting, hein. Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos et Louise Bourgoin.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème?
Non, on gère, c'est bon.
Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair?
C'est pas un surveillant, monsieur.
Je suis le nouveau professeur de mathématiques.
Un collège de Paris en grande banlieue, la rentrée scolaire, une bande de professeurs retrouvent leur travail et leurs collègues. Et à leur côté, pour la première fois, le jeune Benjamin découvre le métier de prof, mais aussi le manque de moyens de l'éducation nationale, le rapport aux élèves plus ou moins difficile, les tutos YouTube qui apprennent à devenir un bon prof et la formidable solidarité qui unit ses collègues, tous très engagés et très dévoués à leur métier.
Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer?
Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux.
Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux.
Ouais, moi je peux te montrer à... Après ou avant la récré.
Ils sont très lourds, c'est normal.
Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord?
T'as toujours voulu être prof?
Sur tous mes bulletins, il y avait écrit « ne fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille.
On change les équipes!
Ça va mieux avec tes quatrièmes?
Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments.
Je peux savoir ce qui va pas?
Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent. Et moi aussi, je m'emmerde.
Tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais.
On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles?
Moi, j'ai trouvé que votre cours était... assez ennuyeux.
Après médecin de campagne et première année, Thomas Lilti revient avec un métier sérieux. Oui, visiblement, trouver des titres éloquents n'est pas sa principale qualité en tant que cinéaste, mais bon. Le réalisateur, qui est également médecin, s'est d'abord consacré à parler de la profession qu'il connaissait le mieux au travers d'une trilogie plutôt bien accueillie, au point même que Lilti a décliné son premier film Hippocrate en série télé à succès de 3 saisons. D'ailleurs, le personnage interprété dans Un métier sérieux par Vincent Lacoste, qui est donc le nouveau professeur dans l'établissement, ce qui est d'ailleurs un gimmick de scénario plus que classique pour introduire le spectateur à un nouvel univers, le nouveau professeur donc raconte qu'il a d'abord raté médecine pour finalement atterrir sans grande conviction dans l'éducation nationale, comme si finalement Un métier sérieux était une sorte de suite non officielle du dernier film de Lilti, première année, dans lequel Vincent Lacoste échouait avec une grande joie à son concours de première année. À nouveau, Thomas Lilti souhaite montrer l'humanité d'une profession. C'est pourquoi ce film choral sera placé uniquement du point de vue des professeurs. Et d'ailleurs, très intéressant de voir l'envers du décor quand soi-même on était élève il y a encore très très peu de temps. Mais voilà, le problème, c'est que non seulement le cinéaste parle ici de ce qu'il connaît moins, mais également on a le sentiment d'avoir déjà vu des films ou des séries qui étudient ce contexte socio-professionnel trop de fois. Encore récemment, le film La Cour des Miracles abordait peu ou prou les mêmes problématiques en lien avec l'enseignement et le faisait de façon un peu moins convenue.
And what kind of main course do you like?
Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je les vois grandir.
Malcolm?
Des hamburgers.
In English, please.
Moi, je fais médecine pour faire plaisir à mon père. J'ai échoué.
Moi, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz.
Toi, t'as toujours eu la vocation?
Personne n'a l'air au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place.
Vous savez s'il y a des frites?
C'est le jeudi, les frites.
C'est le mardi.
Ça a toujours été le jeudi.
Hé, hey, les frites, c'est le mardi?
Voilà. Mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé.
Le casting, lui, monte encore d'un cran par rapport aux productions précédentes de Lilti. Ici, Cluzet, Exarchopoulos, Lacoste, Legbill et Louise Bourgoin, qui est particulièrement convaincante et émouvante, en prof dépassée par ses élèves et malmenée par son propre fils adolescent. Malgré le grand investissement des comédiens et le plaisir qu'on a à les voir interagir, le film ressemble quand même à un enchaînement de séquences un peu bâclées, amenées de façon timide et sans véritable liant, et sans véritable autre but également que de montrer la belle solidarité entre ses professeurs qui restent après tout de grands enfants. Beaucoup de scènes manquent de consistance, par exemple la sortie à la mer pour faire du surf. Déjà, quel collège emmène ses élèves faire du surf alors qu'ils sont en cours à Paris? Une pseudo-noyade à laquelle on ne croit mais pas du tout. Également, le personnage de la nouvelle professeure interprétée par Lucie Zhang, qu'on avait découverte dans les Olympiades de Jacques Audiard, et qui dit grand maximum deux phrases dans le film, comme si on avait oublié de développer son personnage, tout simplement. On force aussi un peu sur le côté bande de potes, des gens qui ont entre 25 et 65 ans et qui se retrouvent dans le même établissement pour travailler dans des conditions stressantes, ne peuvent pas tous être amis et boire des coups après les cours, non. Un métier sérieux est un film au charme certain, mais qui manque un peu de profondeur, qui manque de matière dans son récit et dans sa mise en scène pour vraiment marquer les esprits. Mais nul doute que le film sera bientôt décliné en série afin de permettre à l'histoire et aux personnages d'être peut-être un peu plus approfondis.
Et en tout cas, je me demande s'il n'y a pas plus de médecins qui passent de médecins à cinéastes comme Thomas Lilti que de médecins qui passent à professeurs dans l'éducation nationale. C'est vrai que c'est assez étrange ce parcours.
Qui aurait envie de devenir prof, en fait, c'est ça?
Ça, c'est une autre question. Ça ferait l'objet d'un autre film. Et en tout cas, Louise Bourgoin, tu fais bien de noter encore une fois que c'est une actrice quand même incroyable.
Oui.
Un métier sérieux est en salle depuis le 13 septembre. Après La Nuée qui avait marqué les esprits, Juste Philippot revient avec Acide, un thriller apocalyptique où les pluies sont acides.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées.
On a pas marre de toutes ces merdes, hein.
Je t'en fous la planète, c'est tout.
La fin du monde tous les deux jours.
De toute manière, ça me concerne plus que toi.
Acide, le nouveau film de Juste Philippot commence étrangement. La caméra tremblante s'immisce dans un conflit social qui mêle des salariés au cadre de leur entreprise. Alors les choses dérapent quand Michal est arrêté pour avoir agressé son patron, pris en otage. L'entrée en matière d'Acide est sociale et a de quoi surprendre. Le réalisateur qui avait signé en 2021 le très remarqué La Nuée dresse vite le portrait d'une France qu'on a connue cette année encore avec ses tensions économiques et sociales. Mais pourtant le film va glisser vers le genre, alors non pas du film social, mais du film apocalyptique. C'est un Guillaume Canet en père un peu lointain qui va tenir en partie ce film très réussi qui était programmé à Cannes à la quinzaine des cinéastes.
Je crois que c'était pas grave.
Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut.
L'acide sulfurique et corrosif pour la peau.
C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise ?
Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu.
Écoute.
Vas-y.
Franche-toi.
42 degrés attendus dans les rues de la capitale.
Michal, sous contrôle judiciaire, est un père divorcé qui ne s'entend pas très bien avec son ex et qui vit une histoire avec une femme très malade. On sent immédiatement les fêlures et la ténacité de ce syndicaliste qui est montré du doigt par une société de l'image et des portables, donnant l'image d'un père violent et jusqu'au boutiste, alors ce qui embarrasse un peu sa fille. Mais s'il n'y avait que ça, mais c'est qu'il pleut, alors pas une eau qu'on attend, mais des grosses averses de pluie chargées d'acidité, mieux vaut se planquer.
Attention ! Vous êtes où là?
On allait où vous pouvez, putain?
Dès que vous pouvez, vous allez vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller.
Mais si ça pète aussi à l'est, on fait quoi?
Les autorités avancent un principe de précaution, alors on sent que c'est un peu le bazar, pour ne pas dire la légèreté, avant que l'armée n'intervienne. Le film bascule alors dans une autre dimension, hein, il faut sauver sa peau. Et avec ça, eh bien, cette famille, au premier abord désunie, va devoir se serrer les coudes. Des décisions vont devoir être prises de celles qui sont radicales. Alors il y a un peu, voire beaucoup, hein, de la guerre des mondes de Spielberg, tous les spectateurs vont y penser. Alors dans le film du réalisateur américain, Tom Cruise doit choisir entre une foi en l'humanité et la préservation de la cellule familiale par des actes parfaitement et fatalement égoïstes. Tout cela est très bien montré aussi dans Acide, mais sans que le réalisateur n'en fasse un enjeu moral. À situation extrême, décision extrême. On a quitté la lutte sociale du début où l'on souhaite un meilleur sort pour les ouvriers, pour une lutte pour la survie. Contrairement à la guerre des mondes, il n'y a pas de bestiole, le danger vient seulement du ciel. Il suffit alors de le faire terriblement sombre hein, pour qu'on sente la menace. La terreur qu'inflige ce cataclysme est parfaitement dosée par le réalisateur. La pluie ne dévaste pas tout, hein, elle troue, elle érode, elle absorbe. Imaginez si vous en buvez. Avec ça, tous les abris ne sont pas bons à prendre. Il faut être patient, méticuleux et en même temps, le temps presse, on est fatigué sur les nerfs.
Est-ce qu'on va ? On va où ?
Il faut qu'on trouve une maison.
Il n'y aura pas d'histoire.
Il n'y aura pas d'histoire. Il faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble.
Acide va au-delà du drame écologique, il construit un drame familial et humain en l'abordant par le genre. On oscille entre action et suspense avec peu d'effets spéciaux, alors surtout des effets de mise en scène hein, dopés par une narration inventive, des descriptions entre réalisme et terreur et un jeu des comédiens au plus juste. C'est appréciable hein, d'ailleurs que Guillaume Canet ait accepté le pari de nous emmener dans une histoire où le ciel lui tombe sur la tête mais où il n'est pas le réalisateur et il n'engloutit pas des millions d'euros. Le seul bémol du film est à mettre sur un détail de vraisemblance, alors que la pluie acide alors troue la tôle des voitures, elle troue les toits, elle fait beaucoup de dégâts, elle ne vient pas à bout des pneus des voitures. Alors là, j'avoue que j'ai dû lutter pour ne pas m'en formaliser, mais à part ce petit détail, vraiment, ce film Acide de Juste Philippot avec Guillaume Canet est vraiment à voir. Il est sur les écrans depuis le 20 septembre. Après Mort sur le Nil, sorti en 2022, on retrouve les aventures d'Hercule Poirot, alors toujours mise en scène par Kenneth Branagh, mais cette fois-ci, eh bien, fini les fonds verts, le cinéma reprend ses aises.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau.
Vous avez une idée derrière la tête.
Et de trois pour Kenneth Branagh. Après Le Crime d'Orient Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2022, le réalisateur britannique revient devant et derrière la caméra pour incarner à nouveau Hercule Poirot dans ce mystère à Venise, bien évidemment toujours inspiré des écrits de la prolixe Agatha Christie. À l'heure où on se questionne sur la pérennité des grands noms des héros du XXe siècle sur nos écrans, qui, tel Indiana Jones, ne font plus recette, c'est un beau pied de nez qui nous rappelle que certaines valeurs sûres le sont toujours, pour peu qu'on y injecte une passion visible et que les adaptateurs comprennent ce qui fait mouche dans des récits populaires qui ont fait leur preuve en leur temps. C'est aussi le plaisir de voir que Kenneth Branagh, fier représentant de la culture anglaise, se soit trouvé un nouveau domaine dans lequel il peut faire honneur à son talent de conteur après avoir été longtemps un fascinant et rigoureux interprète de William Shakespeare, majoritairement dans les années 90. Alors dans la peau d'Hercule Poirot, il semble avoir trouvé un nouvel alter ego qui fait oublier certaines sorties de route, qu'on imagine plus commerciales qu'autre chose, de sa carrière inégale. Et comme il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il rend hommage à ses compatriotes, le voici revenu pour une histoire où le crime et l'aspect policier le disputent au fantastique.
J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans.
Je ne crois pas aux médiums.
Venez assister à une séance, dévoiler l'escroquerie.
Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas ? Mais moi, je parle aux morts.
Je donnerai tout pour entendre ma fille.
Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là.
À l'écoute.
Passé un très moyen Le Crime de l'Orient Express, hein, qui souffrait du poids des innombrables adaptations passées et d'un concept initial un peu dévoyé, hein, il avait nettement plus convaincu avec Le Prenant mort sur le Nil, hein, y insufflant un souffle d'aventure grâce au cadre exotique et même une pointe d'érotisme en magnifiant le superbe personnage trouble joué par la splendide Emma McKay. Alors son idée de génie, hein, et qui adoubait enfin Branagh en Poirot totalement maîtrisé, résidait en son prologue qui nous plongeait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et nous dévoilait les origines réinventées de sa célèbre moustache. Se déroulant en 1947, soit 10 ans après les événements de Mort sur le Nil, Mystère à Venise, hein, met en scène un Poirot désemparé par le fait que le monde et la génération après lui n'ont pas tiré de conclusions suffisantes de l'horreur de la Der des Der et ont laissé éclater un second conflit mondial encore plus meurtrier. Alors parmi les nouveaux protagonistes de cette aventure, il y a d'ailleurs un, plus jeune que lui, hein, qui est lui aussi revenu défiguré par la guerre, mais à l'intérieur. L'occasion, hein, de parler des mots qui ne se voient pas, mais qui font du mal, beaucoup de mal, à l'image des sombres événements de Mystère à Venise. Recentré à Venise donc, hein, et le temps d'une nuit, alors que la nouvelle d'origine se passait dans un manoir anglais et sous plusieurs jours, ce troisième film accompagne Poirot dans un palazzo décrépit et supposément hanté à la demande, hein, de l'écrivaine Adrienne Oliver, qui a bâti sa gloire littéraire en fictionnalisant les aventures de son ami moustachu. Alors la célèbre cantatrice Rowena Drake espère, hein, à la suite d'une séance de spiritisme, entendre la voix de sa fille morte un an plus tôt, mais un assassinat, suivi d'un autre, vont faire basculer la soirée d'Halloween en une nuit de tous les mystères.
Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable.
Un fantôme l'a tuée.
Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela.
Admettez pour une fois que la situation vous dépasse.
Mystère à Venise se faisait tout particulièrement attendre pour les amateurs de Branagh comme moi, car il signe enfin son grand retour au film d'inspiration gothique, lui qui adapta de façon spectaculaire Frankenstein de Mary Shelley, une autre consoeur, en 1994 sous la houlette de Francis Ford Coppola à la production. Et bien, il faut le dire, c'est une jolie réussite, hein, car Haris Zambarloukos, donc le chef opérateur historique, hein, de la saga Poirot, a soigneusement magnifié la nuit et les ambiances sinistres. Branagh débute sa caméra, il joue des reflets des bougies sur les visages des suspects, tous incarnés par un casting cosmopolite toujours impeccable, amplifie, hein, les effets à l'aide d'un montage riche et mord franchement la ligne, hein, qui sépare l'enquête du surnaturel pour notre plus grand plaisir. Alors il va sans dire, hein, que les amateurs de ce genre de formule seront littéralement aux anges, hein, et ce même si cette formule reste quand même bien huilée et donc visible. Des trois Poirot réalisés, Mystère à Venise, auquel on préféra le titre plus fantasmagorique originel, hein, A Haunting in Venice, est clairement le plus abouti. Seule interrogation qui persiste, pourquoi n'est-il donc pas sorti au mois d'octobre pour Halloween ?
Mort à Venise est en salle, effectivement, depuis le 13 septembre. Prix du jury au dernier festival de Cannes, Les Feuilles mortes d'Aki Kaurismäki racontent le destin de deux personnes solitaires qui se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
En 2017, Aki Kaurismäki avait prévenu qu'il voulait arrêter le cinéma, mais comme d'autres, hein, citons Soderbergh, 6 ans après, voilà que son dernier long métrage se retrouve en compétition à Cannes et y remporte un prix, celui du jury. Un lot de consolation, mais lot quand même pour ce film qui ressemble à beaucoup d'autres du réalisateur finlandais. Alors le cinéaste s'est justifié, hein, sur son besoin de refaire du cinéma. Cela tient probablement à la proximité de la Finlande avec la Russie belliqueuse. Mon angoisse face à des guerres vaines et criminelles m'a enfin conduit à écrire une histoire sur ce qui pourrait offrir un avenir à l'humanité, le désir d'amour, la solidarité et l'espoir en l'autre. Voilà, fin de citation. Et voilà donc résumé Les Feuilles mortes, un titre de film qui n'est quand même pas bien engageant. Cependant, c'est à une histoire d'amour un peu insolite, à sa manière, donc, que Kaurismäki nous convie.
Etsinyt sinua kaikkialta.
Ajattelin, että löysit mieleisemmin.
Nous sommes à Helsinki, à une époque qu'on aurait du mal à cerner, hein, des fringues hors de n'importe quelle mode, pas d'omniprésence de portable ni d'écran. La preuve, quand on veut donner son numéro de téléphone, eh bien c'est celui d'un fixe et on griffonne sur un papier qu'on a tout fait de perdre. Et c'est justement ce que fait Olapa, un ouvrier qui a un peu de charme, mais le grand tort de boire de l'alcool, y compris au travail. Alors il perd souvent ses boulots, comme il perd le papier donc que lui remet Ansa, jeune femme qui vit seule dans un petit appartement, où la radio crache la laideur du monde au travers des actualités sur la guerre. Elle a aussi perdu son boulot, hein, parce qu'elle a eu le tort de récupérer un produit périmé qui allait finir à la poubelle du supermarché où elle travaillait. Satané monde, hein, quand même. Alors ces deux-là, beaux dans leur manière de se tenir sans excès, presque comme des figures, hein, se rencontrent lors d'une soirée karaoké. L'événement leur est salutaire, car c'est la promesse d'un avenir à vivre à deux. Pourquoi pas ? Mais attention, point trop de passion. On est chez Coris Maki, où les choses vont lentement et la mélancolie parvient à se dissoudre dans une drôlerie qui a plus à voir avec la poésie et l'insolite qu'avec l'humour. Mais de l'humour, il y en a, et même du cinéphilique. Hein. Les deux personnages choisissent d'aller voir un film. Alors, il s'agit de Dead Don't Die, le film de zombies réalisé par Jim Jarmusch, qu'un spectateur compare à Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. Et à un moment, on voit également l'affiche de Rocco et ses frères de Luchino Visconti, et il y a aussi un clin d'œil à Charlie Chaplin, et c'est peut-être d'ailleurs à Charlie Chaplin que ce film peut faire penser. Alors, non pas dans le côté burlesque, hein, mais avec ces personnages qui luttent, chutent et reviennent. Ils vont de boulot en boulot. La pauvre Hansa, eh bien, c'est le cas de le dire, ne tombe que dans des situations où elle n'obtient même plus de salaire. À un moment, en recevant la facture d'électricité de trop, eh bien, elle coupe le courant. Mais elle n'en a jamais fini avec la vie. La rencontre de ces deux personnages permet de voir deux êtres que le désir d'amour et l'espoir en l'autre, qui pourrait être un temps menacé, eh bien, sont un rempart au monde qui va mal quand tout fout le camp, tout ce qui nous est finalement extérieur. Les feuilles mortes n'aura pas le temps de vous ennuyer tant il est sec, hein, avec ses 1h20. C'est un condensé du cinéma de Aki Kaurismäki qui mérite bien son prix cannois. On écoute l'équipe du film à Cannes lors de la conférence de presse.
Est-ce que vous pensez tous que la guerre favorise les histoires d'amour, que la menace de la guerre favorise les histoires d'amour?
Est-ce que vous parlez de la guerre, justement, cette attaque complètement injustifiée de la Russie contre l'Ukraine?
Absolument, comme lui.
Et on ne peut pas passer à côté. Et aussi, le cinéma et les films durent éternellement. S'il y a encore du monde qui vont regarder les films plus tard. En principe, les films vont quand même résister pendant au moins quelques temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on compare avec l'éternité?
Oui, je pense qu'on a besoin d'amour plus que jamais, et de la solidarité et du cœur. Donc, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de sujet plus important maintenant.
Tout au long de cette époque terrible, il faut se souvenir que l'amour existe aussi dans le monde. Ce film est extraordinairement important.
Masenta.
Mika.
Kujua on niin paljon.
Deux questions pour M. Coris Maki. Premièrement, je pense que le film insiste sur toute l'importance de l'histoire du cinéma. Il y a beaucoup de références à l'histoire du cinéma dans ce film, notamment de Chaplin. Je voudrais savoir quel est l'impact de Chaplin sur vous. Et deuxième question, lorsqu'on va au cinéma, lorsque les personnages vont au cinéma, il y a un poster ici. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de ce poster qui trace un film remarquable? Vous avez remarqué? Très bien. J'ai mis ce poster parce que c'est ma référence dans cette petite histoire d'amour. Ils ne sont pratiquement jamais rencontrés dans le film, sauf à la fin. Et j'ai pensé que c'était mieux qu'ils ne se rencontrent jamais. Mais Chaplin est toujours le meilleur, pour toujours. Il a créé Hollywood pour le meilleur et pour le pire. Il a créé le cinéma tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. J'aime beaucoup aussi Buñuel, Carnet, mais Chaplin est toujours le meilleur parce qu'il a laissé les choses à un niveau très simple.
Comment ça?
Il reste peu d'empathie et d'humanisme dans ce monde.
Adios, amigos.
Adios, amigos, en d'autres termes. J'écris toujours très vite mes scénarios. Il m'a pris 30 heures, exactement. Vrai? Oui, c'est absolument vrai.
Where?
Et d'où vient l'idée?
Subconscious.
Mon subconscient.
Of course I have been
bien entendu,
running around this idea of
l'idée me trotte par la tête depuis pas mal de temps. Cette notion de mélancolie, de guerre. Il m'a fallu 5 jours pour écrire le script. Et j'ai suivi les idées que j'avais en moi depuis quelque temps. Mes doigts bougeaient tout seuls sur le clavier.
C'était l'équipe du film Les Feuilles Mortes qui a remporté le prix du jury à Cannes. Une femme va tout faire pour garder ses enfants. Nous parlons de Comme une louve de Caroline Glorion.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Lily est une femme de 26 ans, mère de 3 enfants, l'un de père inconnu, les 2 autres de père violent, depuis en prison, et elle tente de s'en sortir comme elle peut, avec un petit boulot de serveuse, en vivant dans un foyer. Ce qui lui importe, c'est que ses enfants soient ensemble et avec elle, qu'ils fassent famille, car c'est finalement tout ce qu'ils ont. Mais les services sociaux ne l'entendent pas de cette oreille et souhaitent placer les enfants de Lily. Entre envie de prendre la fuite et désir de prouver qu'elle est une bonne mère digne de confiance, Lily va tout faire pour se battre.
C'est une étoile, ça.
Mais c'est un avion qui va attirer leur prix.
C'est l'étoile du berger.
Oui.
Sans fiche de paye, c'est impossible de faire avancer votre dossier.
Je suis votre nouvelle assistante sociale.
Putain. Mais je la sens pas, c'est toute dévoluse d'enfants. Mais arrête, Lilou, peut-être qu'elle veut t'aider, c'est tout.
On va pas se raconter d'histoire, d'accord? Pourquoi Samy avait un bleu sur le visage?
Mais foutez-moi la paix. Quoi? C'est pas moi qui l'a tapé, mon fils. Mais c'est battu à l'école.
D'abord, vous me fuyez depuis 15 jours. Pourquoi?
Non mais moi j'aime pas vos questions, c'est personnel.
Faites n'importe quoi, vous êtes complètement infantile.
C'est le premier film de la réalisatrice Caroline Glorion, une réalisatrice qui a eu 1000 vies auparavant, en devenant entre autres éducatrice et bénévole chez Emmaüs, puis en travaillant comme journaliste chez France Inter, ou encore comme grand reporter pour France 2. Elle a été essayiste, documentariste, scénariste, Comme une louve, et donc son premier long métrage. Ce qui est intéressant dans Comme une louve, c'est que l'on nous met face à nos préjugés, les préjugés selon lesquels les parents pauvres s'occuperaient forcément mal de leurs enfants, selon lesquels les parents pauvres sont forcément maltraitants et qu'il est forcément souhaitable donc de séparer les parents de leurs enfants quand ils sont dans des situations de trop grande précarité. On nous place du point de vue de la mère isolée, interprétée par la très prometteuse Mathilde Lamus, déjà aperçue dans une histoire d'amour et de désir de Hila Bouzid. Mais en choisissant Sandrine Bonner pour interpréter l'assistante sociale qui veut donc lui enlever ses enfants, eh bien on donne aussi une certaine humanité aux antagonistes. Car il est bien évidemment question ici d'interroger un système plutôt que de juger des individus. D'ailleurs, pour préparer son film, Caroline Glorion a rencontré des assistantes sociales qui se dédiaient, je cite ces mots, corps et âme à leur travail, mais qui étaient néanmoins souvent sourdes aux véritables aspirations des familles dont elles avaient la charge. La réalisatrice a eu le sentiment de devoir mettre en scène ce malentendu entre ces professionnels du social et ces familles démunies, un malentendu qui donc conduit souvent au placement des enfants.
Quand ça dérape, ça dérape.
Oh, vous rendez compte du ridicule de la situation? Des gamins qui se bagarrent dans une cour d'école et on les enlève à leur mère.
Vous comprenez qu'on a du mal à vous faire confiance.
Vous savez qu'il y a des gens qui veulent vous aider?
On va jamais me les rendre, mes gosses.
T'as le droit de craquer.
Mais demain, on y retourne, ma poule. Hein? C'est l'heure. On vous retrouvera vraiment dans 15 jours.
Monsieur le juge, avouez que son seul crime est celui d'être seul et pauvre. Mais elle s'en sort pas si mal, merde.
J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à récupérer mes gosses.
Faut leur prouver que t'es dans les clous.
Ne commence pas tes conneries.
J'ai grave la trouille. Un peu de courage.
Comme une louve est un film plutôt brut dans sa forme, qui vaut surtout pour son message, pour les injustices qu'il raconte et qui nous permet de nous interroger sur ces inégalités encore trop présentes dans notre société.
Comme une louve est en salle depuis le 20 septembre.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, Guillaume, toi, tu auras vu une nouvelle expérimentation de Robert Rodriguez.
Oui, après l'amusant Hypnotique, on va sûrement voir le très amusant Spy Kids Armageddon.
Quant à moi, j'aurais vu un film qui était en compétition à Cannes, Club Zero de Jessica Hausner. Et puis toi, Marine, eh bien, tu vas nous reparler du film de Serge Gainsbourg, sorti dans les années 70.
Tout à fait, ce sera le film Je t'aime moi non plus, qui ressort en salle. C'est le premier film qu'il a fait en tant que cinéaste. Et c'est un film qui n'a pas été très aimé, mais c'est aussi un film, comme vous allez le voir, qui n'est pas très aimable. Et je vais également vous parler de façon un peu plus générale de Madame Jane Birkin, qui nous a quittés récemment.